Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission Parlons Foot 87.9 FM sur Fréquencier. Je suis avec Dylan et Valentin, bonjour.
Bonjour.
Donc au sommaire de cette émission, normalement on aura le président du Mans FC, Jean-Pierre Pasquier, en interview par téléphone. On va parler du derby Lyon-Saint-Etienne, le débrief. Comprenez-vous la colère des Troyens et Guingampais après les multiples erreurs d'arbitrage qu'ils ont vécues ce week-end? Paris au petit trot jusqu'à la fin de l'année et on finira par Marseille en fin de match référence. Donc d'abord on va laisser Dylan nous remettre dans le contexte avec le Mans FC.
Donc oui, en attendant que Monsieur Pasquier nous rejoigne, on va refaire un petit point sur ce qui était reproché à Christophe Charbonnier. Donc il avait été licencié pour faute grave, sans préavis et ni indemnité de rupture, excusez-moi. Le cas Amimouche, une joueuse qui est arrivée donc cet été et qui a été écartée voilà du groupe dû à des débordements lors des entraînements, donc on lui reproche de l'avoir écartée. Et je cite, il a dit dans Ouest France, qui a dit que la sélection féminine irait s'entraîner au Clofori? C'est Monsieur Pasquier qui a dit aux joueuses que si elles désiraient un survêtement du club, elles devaient se le payer, contrairement aux garçons. À qui il était offert? C'est Monsieur Pasquier. Qui n'assiste jamais au match de l'équipe féminine? C'est Monsieur Pasquier. Comment s'étonner que les filles, même heure que les garçons? Et pour ce qui est d'une réunion avec le staff médical prévue en début de saison, elle n'a jamais eu lieu. Qui a créé un clan? Donc c'est la question de Monsieur Charbonnier, puisqu'on lui reproche d'avoir créé un clan au sein du club. Je cite que Monsieur Pasquier lui a demandé aussi de démissionner à deux reprises. Donc on est dans la compréhension totale aussi sur le fait qu'il lui ait prolongé son contrat l'été dernier. Voilà aujourd'hui où en est la situation Mansell. Sachant qu'en plus les féminines ont joué encore le week-end dernier avec un effectif de 14 joueuses, dont une grande partie des joueuses U19. Donc on attend des explications et un peu plus d'informations de Monsieur Pasquier dans le prochain interview. Mais bon, pas seulement sur l'équipe féminine, mais aussi sur l'avenir par rapport aux garçons et l'école de foot.
Donc on va passer au premier débat en attendant Monsieur Pasquier, c'est Lyon, Saint-Etienne-Lyon, le derby. Vos impressions sur ce match?
Il y a eu la victoire de Saint-Etienne quand même contre le cours du jeu. Ils ont marqué sur une perte de balle lyonnaise dans leur camp
qui a profité à
Söderlund qui marque son premier but en Ligue 1, puisque Lyon a dominé Saint-Etienne. Ils ont touché la barre en première mi-temps. Ils auraient mérité de gagner, mais après Lyon cette année a beaucoup de problèmes quand même pour finir les occasions.
On voit depuis que Bruno Genesio a été mis en place, on a retrouvé le Lyon de l'année dernière.
Oh, je sais pas si on l'a totalement retrouvé. On voit que sur le match de Coupe de France d'hier, le Lyon d'hier était un peu limité. Valbuena a joué ce match comme un match de championnat ou même de Champions League, donc il a pas fait de différence, mais le Lyon, on sent quand même que Lyon est diminué par rapport à d'habitude et qu'il reste encore beaucoup à prouver. Beauvu n'est plus dans l'effectif puisqu'il vient d'être cédé au Celta Vigo pour 5 millions d'euros, donc ça fait un joueur en moins. Bisevac est parti.
Fekir qui manque depuis le début de l'année,
qui devrait revenir apparemment au mois d'avril, mais bon, il sera pas à 100%. Linceros qui pourrait être prêté à Lorient, donc il y a quand même du
Bah qui connaît aussi.
Oui, Bah qui connaît d'ailleurs, qui était dans l'effectif contre Saint-Etienne. C'était une surprise de voir Gonalon aussi avec le brassard de capitaine. Donc il y a un chamboulement, et encore une fois, faut reconstruire et faut refonder les bases. Et ça fait en 10 ans, ça fait beaucoup trop pour les Lyonnais. En 5 ans, pardon. Lyon chaque année doit reconstruire quelque chose. Et pour l'instant, ils sont loin de prétendre à être une grosse équipe du championnat. Ça va venir. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont dominé le match contre Saint-Etienne et les Stéphanois n'ont pas volé leur victoire par rapport au match aller.
S'il y avait un truc qu'on attendait, c'était Ferry qui allait à Geoffroy Guichard après la blessure qu'il avait fait subir à Beric. J'ai été étonné parce qu'il n'a pas été énormément sifflé comme le public stéphanois l'avait laissé entendre faire.
On va dire qu'ils ont été assez malins et assez intelligents pour pas créer de polémique durant ce match et surtout de faire vivre l'événement de ce derby. Et c'est beau que Saint-Etienne l'ait gagné. En plus, c'est Söderlund, le remplaçant de Beric, qui marque, donc c'est quand même un signe. Et puis c'était important que ce soit pour Beric ou pour Perrin, parce qu'on se rappelle que Perrin avait fini en sang à la fin de ce match. Donc Lyon paye les mésaventures du match aller. Hein. Puis ils sont tombés sur un grand Stéphane Ruffier qui a sorti des arrêts, encore une fois, mémorables.
Et surtout en première période. Donc on va passer au deuxième débat, c'est comprenez-vous la colère des Guingampais et Troyens après les erreurs d'arbitrage qu'ils ont subies sur le week-end dernier.
Bah, les Guingampais, ça fait plusieurs matchs quand même qui
7-8 matchs, hein.
qui sont pas aidés par l'arbitrage. Ils disent rien pour l'instant, mais à force de continuer, à un moment...
Le président des plats a commencé à quand même un peu s'énerver.
Quand on a vu il y a deux semaines contre Marseille, un pénalty non sifflé début de match, et contre Nantes, deux fautes quand même sifflées, comme
un
pour
pénalty,
Guingamp, ça fait beaucoup.
Une main des Nantais, il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage contre Nantes, et on peut comprendre la colère des Guingampais qui menaient 2-0 en plus.
Qui se sont fait rejoindre à 2-2. Ça nous remet dans le débat qu'on a eu la semaine dernière, c'est les arbitres français sont-ils les plus nuls d'Europe?
Je crois que Monsieur Pasquier...
Monsieur Pasquier, donc. Bonjour Monsieur Pasquier.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Tous mes bons voeux pour cette nouvelle année.
Merci, vous
aussi.
Merci,
vous aussi.
Merci beaucoup.
Quoi, on va commencer cette interview avec la première question pour Dylan.
Vous doutez bien qu'on vous en a certainement parlé déjà depuis quelques semaines de l'équipe féminine. Aujourd'hui, quel avenir pour l'équipe féminine avec les problèmes qu'il y a pu avoir?
L'avenir est la même que celle qu'on a toujours préconisée au niveau du comité de direction et du conseil d'administration. Ça fait partie d'un axe prioritaire, donc on reste dans notre ligne directrice, à savoir donner la possibilité au Mans FC d'avoir une des meilleures équipes de la région au niveau du football féminin, et peut-être améliorer une cellule de recrutement et l'école de football au niveau des jeunes en ayant des relations encore plus étroites avec les collèges et avec les lycées.
Alors, je continue sur les féminines. Est-ce que vous avez peur qu'à la fin de saison, elles descendent en 3e division? Elles sont quand même 6e du championnat, et sachant qu'il y a 2-3 ans, elles ont quand même failli monter en première division.
Écoutez, c'est la dure réalité, je dirais, du sport. On peut gagner ou on peut perdre. Quand des décisions sont prises, on les prend pas à la légère. On est suffisamment ou on est fou ou alors on est suffisamment lucide. Parce que quand on regarde la décision qui a été prise, on va pas revenir sur des choses qui ont été déjà écrites et mal écrites parfois. Quand une équipe gagne 5-0, que le lendemain on prend la décision de licencier l'entraîneur de la D2, c'est qu'on a suffisamment d'arguments et d'éléments qui nous permettent de le faire. Maintenant, c'est à nous de trouver la bonne formule pour que on soit capable de sauver cette équipe D2 en fin de saison. Donc le match dimanche dernier contre Bordeaux à l'extérieur montre qu'on a peut-être fait une bonne, on a pris la bonne décision par rapport à l'avenir du club.
Donc justement, l'effectif, vous parlez du match de Bordeaux, ou même on peut parler aussi celui d'ici, où les féminines se sont inclinées 5-2, mais on avait tenu un bon moment quand même dans ce match. Aujourd'hui, l'effectif du Mans FC, on entend qu'il est constitué de 14 joueuses. Combien de joueuses de l'ancien effectif, donc avant Charbonnier, pendant Charbonnier, font-elles encore partie de celui de Claire Germain?
Bah écoutez, aujourd'hui la porte elle est toujours ouverte, donc celles qui réfléchissent et qui ont besoin de prendre du recul devant certaines situations le font régulièrement, donc ils peuvent s'entraîner, la porte est grande ouverte, donc on a une ou deux joueuses qui viennent régulièrement et qui souhaitent continuer à véhiculer l'image du club du Mans FC. Aujourd'hui, il faut savoir se poser la bonne question. Quand on porte un maillot, est-ce qu'on est fier de le porter ou on n'est pas fier? Certaines personnes, certaines joueuses se sont exprimées en disant aujourd'hui, on se fout royalement du club. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de jouer uniquement avec l'entraîneur. Bon, ben, la décision, ils le prennent elles-mêmes. Elle se respecte, mais c'est un choix que je respecte, mais qu'on ne peut pas continuer. Aujourd'hui, ce sont les valeurs humaines, les valeurs du club que nous préconisons par rapport à l'avenir de cette équipe. Pour répondre à votre question, d'autres joueuses sont parties, comme par hasard, certaines joueuses reviennent. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour vous dire, pour faire un juste équilibre entre ceux qu'ils veulent, celles qu'ils souhaitent arrêter, celles qu'ils veulent continuer et celles qui arrivent. On aura l'occasion début février de regarder le nombre exact de joueuses que nous aurons dans chaque équipe au niveau de l'équipe féminine.
Je ne sais pas si vous continuez à suivre la Coupe de France, mais quand on voit l'exploit de hier de Trélissac contre Lille, est-ce que vous regrettez d'avoir été éliminé aussitôt dans une compétition, sachant que vous pouvez battre des clubs de Ligue 2 ou de Ligue 1
Là, vous parlez du football masculin, je pense.
Oui, oui, oui.
Oui, donc bah écoutez, on n'était pas très loin quand on était chez vous à Sillé-le-Guillaume. On fait une compétition en Coupe de France. Le but c'est d'aller le plus loin possible. Ça s'est arrêté d'une façon, enfin prématurément, donc on peut le regretter parce que c'est toujours la possibilité, surtout à des joueurs, de faire des matchs contre des joueurs et des équipes de plus haut niveau. On le regrette maintenant, on regardera en fin de saison si la Marie est belle et s'il y a monté au niveau de la CF, au niveau de la CFA2, au niveau des garçons, on pourra peut-être dire on s'est attaché à avoir le meilleur résultat possible pour les garçons et la montée était une priorité, donc on l'a réussi et la Coupe de France ça sera éventuellement oublié assez rapidement.
Alors justement, Valentin parle d'un petit regret. Est-ce que le regret il est pas sur le match de championnat de l'équipe B en DH qui peu de temps après s'était imposé 4-0, je le crois. Est-ce que le regret il est pas là?
Non, si vous êtes tous des joueurs, des jeunes joueurs, j'irais en compétition, vous savez fort bien que dans un premier temps, lorsque l'équipe B est composée de certains joueurs qui n'ont pas été éventuellement mis dans le groupe A, a qu'une envie, c'est de montrer 8 jours plus tard que l'entraîneur a fait le mauvais choix. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis vous avez aussi l'inverse, c'est que l'équipe adverse, elle est 3 fois plus motivée lorsqu'elle joue contre une équipe première que leur équipe réserve. Et j'irais même, quand on regarde bien les compositions d'équipe, les deux équipes n'étaient pas les mêmes. L'équipe adverse que nous avons rencontrée en Coupe de France n'était pas du tout la même avec celle du championnat. Donc on ne peut pas comparer, c'est pas aussi simple que ça le football, c'est simplement un fait. Et ça arrive régulièrement et on n'est pas les seuls à constater ce genre d'événement et de situation.
Autre question, toujours chez les garçons, l'état d'esprit des joueurs cette saison, par rapport à l'intégration des nouvelles recrues, l'état d'esprit, l'ensemble de groupe avec le nouvel entraîneur qui est Richard Désiré, comment ça se passe? Comment voyez-vous cela?
Écoutez, on a cette faculté de s'entraîner régulièrement et tous les jours. Donc on voit bien que le groupe vit bien ensemble, que ce soit avec un entraîneur ou avec le staff, en général. Là, on est appelé à ne pas pouvoir jouer à cause du climat et ça nous embête parce que on va pas rester peut-être un mois et demi comme ça sans jouer, mais l'état d'esprit, pour répondre positivement, l'état d'esprit est très bon. On reste sur un match avec une défaite contre Chartres, mais bon, ça s'est joué sur un coup de dé ce sont les deux premiers qui se rencontraient. Une première manche a été gagnée par Chartres, match retour se fera au Mans. On aura l'occasion au mois de mai de regarder en fin de saison qui terminera premier, deuxième et troisième. Mais on est, par rapport à ce qui va se passer, on est relativement serein, je dirais même assez serein par rapport à l'avenir.
C'est le fait que FFF TV diffuse quelques matchs du Mans qu'ils perdent, parce que les statistiques, c'est 3 matchs du Mans sur FFF TV, 3 défaites.
Eh oui, je vous vois très bon professionnel. Je vous vois régulièrement et je vous entends. Vous êtes des bons pros. C'est vrai que on est le chat noir par rapport à la télé. Donc on a pris la décision de ne plus se mettre devant. Mais bon, c'est pas nous qui choisissons, c'est la télé.
Oui, oui.
J'espère que ça changera. Mais c'est vrai que nos 3 défaites ont eu lieu 3 fois devant les téléspectateurs. C'est comme ça, mais bon, je pense pas que ça a de rapport vis-à-vis des joueurs. Ça les a pas tétanisés en tout cas.
On va revenir sur les féminines. Donnez-nous la version, votre version des faits par rapport au limogeage de Charbonnier.
Oui, bah ça par contre, c'est une bonne question, mais que je ne peux hélas pas y répondre. Aujourd'hui, on est dans une procédure qui va prendre du temps, qui peut aller même un peu plus loin que l'aspect peut-être d'un contrat et d'un licenciement. Si nous le faisons et si nous l'avons fait, c'est qu'on considère qu'aujourd'hui on a suffisamment d'arguments et par contre on ne peut pas rentrer. Ce qui est sûr, comme vous l'avez dit, on n'est pas des gens aujourd'hui qui prenons ce genre de décision à l'aveugle. C'est trop important. On a des situations professionnelles, que ce soit l'ensemble du comité de direction, qui fait que l'aspect humain est important. Mais justement, on a l'obligation de préserver l'aspect physique et mental des joueuses. Et à ce titre-là, on a pris cette décision en bonne connaissance de cause.
Alors justement, encore deux, trois questions. Une dernière sur les féminines. Du coup, vous parliez tout à l'heure des objectifs du club, puisque vous étiez fixé des objectifs sur 4 à 5 ans. Pour les féminines, est-ce que ça fait toujours partie des objectifs qu'à l'avenir, d'ici 3 ou 4 ans, le club monte en première division ? Si bien sûr il est toujours en deuxième.
Oui, c'est aujourd'hui, c'est la priorité aujourd'hui, c'est de dire que le football, le Mans FC, ce n'est pas uniquement du football féminin, mais c'est aussi le football féminin avec toute la structure que nous avons mis en place ou que les gens ont pu mettre en place depuis 5 ou 6 ans. L'être humain n'est pas l'importance. Donc on est là, on peut bouger du jour au lendemain, mais à un moment donné, il faut cette philosophie dans le club et cette philosophie de travailler en bonne relation et en bonne communication entre tous les éducateurs, qui est une relation étroite entre les garçons et les filles, c'est une des priorités que j'ai voulu et que nous avons voulu mettre en place. Aujourd'hui, il y a un terme qui a été utilisé, qui était dire un état dans l'état. Ça veut dire en clair, la section féminine, celle de D2 d'un côté, et tout le reste doit fonctionner. Non. La D2 doit être en pleine harmonie avec la philosophie. Depuis 15 jours, 3 semaines, comme par hasard, alors bien entendu, les dissidents sont toujours à l'écart de cette stratégie, mais qu'ils se mettent elles-mêmes à l'écart. Mais aujourd'hui, le fonctionnement, on n'a jamais fait autant de réunions entre éducateurs et éducatrices que depuis 15 jours, 3 semaines. Il n'y a jamais eu de relation aussi étroite entre les garçons et les filles depuis 15 jours, 3 semaines. Moi, je regarde simplement, c'est un état de fait. Aujourd'hui, on sait ce qu'on veut et on sait comment il faut y aller et avec quelle valeur il faut les mettre en place. Voilà, donc je suis convaincu que la stratégie sur 3-5 ans de voir une équipe D1 fille verra le jour. J'espère pouvoir donner les moyens au club de pouvoir recruter et structurer les équipes féminines d'une façon encore beaucoup plus exemplaire. Nous partons de rien, hein. On a depuis un an et demi, il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, on a toute une structure avec 500 personnes au sein du club. Je peux vous assurer que tout le monde vit bien ensemble. Et donc, je suis convaincu que l'objectif va être une réussite. Mais il faut nous laisser le temps de travailler. Et ceux qui font en sorte que ça ne fonctionne pas, ils se mettent à l'écart et ils se mettent eux-mêmes à l'écart. Voilà.
Alors, il y a une question. Alors, le maire du Mans, en réunion avec vous devant les partenaires et futurs partenaires, peut-être, s'était exprimé sur le MM Arena en disant que si le Mans montait en CFA, le Mans donc jouerait au MM Arena. Une petite question, malgré que vous étiez exprimé l'été dernier sur le fait que le MM Arena avait peut-être été la chose qui avait freiné le Mans dans la course à la montée, est-ce que il y aura un match, une présentation au Mans cette saison ?
Alors c'est un peu prématuré au niveau de votre question, mais toujours est-il que vous avez deux groupes. Vous avez le groupe de l'année dernière, le groupe de cette année. Le groupe de l'année dernière était relativement jeune et on a senti qu'effectivement, que le MM Arena, dans un premier temps, avait tétanisé notre équipe et puis galvauder, transcender l'équipe adverse. Et on a constaté, parce que les résultats le prouvent, qu'en fin de compte, c'était peut-être pas le bon choix et que notre choix était plutôt de dire que notre terrain était celui de la passe arrière. Cette année, on a une équipe qui est complètement différente, puisque si vous avez regardé les deux compositions d'équipe, on a plus de 10 joueurs oui. différents, on a un coach qui est complètement différent, et on a une équipe qui est beaucoup plus mature, parce que c'était la volonté de se donner les moyens pour en faire une équipe de CFA, voire de national, dans les 2 ou 3 ans. Donc aujourd'hui, on reste sur cette stratégie, on a des garçons qui sont peut-être beaucoup plus matures et prêts à jouer sur ce genre de terrain. Donc on a envie de tester, donc on a pris un premier choc, entre guillemets, avec Chaland. On a demandé à Chaland de pouvoir modifier le match du début mars 2016 et de le faire le samedi. On a eu leur accord dimanche, donc on sait qu'aujourd'hui, éventuellement, on a cette possibilité de décaler le match la veille pour le faire au même aréna. Maintenant, la balle est dans le camp, du club pour mettre autour d'une table et le Mans Stadium avec Inès Rombure-Mériguet, la directrice, la ville du Mans, la personne de François Hédon, l'adjoint au sport, nous-mêmes, pour voir si la faisabilité de ce match-là, le 5. Donc pour l'instant, c'est un peu prématuré parce que il y a d'autres priorités et une date n'a pas été programmée pour un rendez-vous, mais ça sera chose faite et si on arrive à trouver un bon terrain d'entente, oui, le premier match peut avoir lieu début mars au MM Arena entre Le Mans FC et puis Chaland.
Alors, dernière question. D'ailleurs, une partie de cette question est souvent des choses qui fâchent. Donc, quel est le passif du club ? Puisqu'on sait que le club donc, est à la recherche de partenaires pour pouvoir diminuer le passif. Et que faudra-t-il au Mans pour gagner et finir tout en haut du tableau, donc monter en CFA, en CFA très clairement?
Ben écoutez, vous utilisez un terme comptable qui est passif, moi je vais parler d'actif. Quand nous sommes arrivés, le club était avec un déficit de 160 000 euros. Si vous étiez lors de la réunion de l'Assemblée Générale de l'association, nous avons un excédent de 50 000. Donc aujourd'hui, on n'est pas en passif, mais on a plutôt un bénéfice de 50 000. Maintenant, on a à mettre en place un budget prévisionnel. Enfin, nous avons mis en place un budget prévisionnel en accroissement, puisque pour avoir certains joueurs de calibre national, comme Vincent Créin ou ceux qu'on avait comme Pivati et autres, il faut également peut-être mettre une gamme un peu plus surélevée au niveau de la masse salariale, mais qu'on n'a pas beaucoup plus élevée parce que on avait un déficit qui existait, donc aujourd'hui on l'a absorbé. Aujourd'hui on est dans un équilibre et je pense que nous avons l'équipe qu'on a mis en place, que ce soit la D2, la DH, voire les filles, puisque les filles se sont plaints d'être toujours derrière la cinquième roue du carrosse, mais ils nous ont demandé en fin de saison dernière de mettre des primes par rapport à elles. On a opté pour ces primes-là également. Donc on a aujourd'hui également une belle équipe de D2, à condition que certaines puissent reprendre le chemin du terrain et du rectangle vert. Mais aujourd'hui, on a un équilibre financier qui existe et on attendra la fin de la saison pour voir où on en sera et si effectivement il y aurait une montée. Parce que la locomotive, elle est pas là avec la D2 pour passer en D1. C'est vrai que c'est la belle vitrine aujourd'hui, mais c'est aussi quand même les garçons qui emmènent un certain nombre de partenaires. Et aujourd'hui, bah, je me donne l'avocat du diable. C'est aujourd'hui que c'est... Si on montait en CFA et qu'on serait effectivement au MM Arena, je pense qu'un certain nombre de partenaires Manceau et Sartois qui seront appelés à venir nous rejoindre, parce que le livre ne fera que de commencer et notre objectif, c'est bien entendu de vivre le plus haut possible et retrouver la Ligue 1 dans les prochaines années.
On vous remercie d'avoir été dans Parlons Foot sur Fréquence Sillé. Au revoir, M. Bassier.
Merci à vous. Mais vous voyez que la dernière question n'était pas une question tabou. Ça ne me pose aucun problème par rapport à vous. Bonne soirée à vous.
On vous remercie, puis on se retrouve à la fin de saison pour faire un bilan.
Avec plaisir.
Au revoir.
Donc on va passer tout de suite avec Valentin avec la Coupe de France.
Oui, alors la Coupe de France, il y a eu plusieurs surprises. Il y a eu hier l'élimination de Lille contre Trélissac après tir au but. C'est la surprise de ces 16e de finale, un club de CFA qui élimine un club de Ligue 1.
C'est une des surprises, oui. Un très beau match et puis une équipe qui a tenu le choc. Le grand maximum qu'ils avaient fait, c'était les 16e.
Il faut les 8e.
Et aujourd'hui, voilà, ils ont ouvert une nouvelle page de l'histoire et passent en 8e.
Il y a également aussi la défaite de Rennes à domicile contre un club de Ligue 2, 3-1 contre Bourg-en-Bresse, qui a entraîné la chute de Philippe Montagnier à la tête du club breton. Il y a aussi Mantes qui a résisté jusqu'à la 105e minute contre Nantes, défaite 1-0 après prolongation.
Mantes s'est créé très peu d'occasions, hein, donc la victoire nantaise paraît plutôt logique sur l'ensemble du match. Mais c'est vrai que le match de Rennes, c'est quand même, c'est peut-être même une plus grosse surprise que Trélissac contre Lille, parce que Trélissac joue à domicile. C'est que Bourg-en-Bresse se déplace au stade de la Route de l'Orient et il met 3 buts après être mené 1-0. Ça, c'est aussi un sacré exploit pour une équipe qui a encore les structures du niveau national. Donc ça aussi, c'est important à retenir. Et puis, comme tu le dis, la chute de Montagnier, on peut se poser la question si ce n'était déjà pas anticipé d'avance que Courbis passe entraîneur dès la défaite, dès la première défaite de Montagnier.
Puis il y a aussi des équipes qui ont tenu leur rang. 3 qui éliminent Concarneau 3-1, Lyon qui élimine Chambly 2-0. Puis il y a Paris qui a battu Toulouse et Marseille hier qui a regagné à domicile après 2 mois contre Montpellier 2-0.
Et quel change pour les Marseillais qui marquent 2 buts sur 2 de leurs seules occasions. Enfin, ils n'ont pas eu de grandes occasions. Et c'est un CSC des Montpelliérains, donc Ben Sebaini, pas simple à dire. Et une erreur sur une sortie de but du gardien Ligali qui relâche le ballon et qui offre un but à Djadjedje. Et c'est vrai que les Montpelliérains ont usé beaucoup d'occasions. Je vois Liatabaré en attaque a loupé beaucoup de face à Mandanda. Donc Marseille se qualifie, mais il faudra faire mieux et plus pour Marseille pour espérer retrouver un niveau convenable parmi les grosses écuries de Ligue 1.
Et ce soir, Saint-Etienne-Ajaccio, et puis samedi, de choc entre les deux clubs de CFA2, Granville contre Sarreguemines.
Merci Valentin. Donc on va passer à quelques actualités, transferts et actu foot. Donc Saïdou Doumbia et Florian Thauvin peut-être en prêt à Marseille. Thauvin qui reviendrait à la maison.
En manque de temps de jeu.
Je ne sais pas si ça sera bénéfique pour le club de Marseille quand même. L'année dernière, s'ils l'ont fait partir, c'est qu'ils en voulaient plus.
S'ils l'ont fait partir, c'était aussi surtout par rapport aux relations qu'il avait avec Bielsa, je crois, où c'était assez compliqué. On sait qu'il n'était pas tout le temps titulaire dû
c'était,
à ça.
C'était pourtant le protégé de Bielsa.
Est-ce que Mitchell...
Ils avaient besoin d'argent, en tout cas.
Voilà. Après, on sait tous que bon, la Brune, il n'était pas très proche de Bielsa la saison passée. Hein. Ils ont eu pas mal de désaccords.
L'Atlético et le Real Madrid interdisent de recrutement pour les 2 prochains mercato, ce qui pourrait faire accélérer le recrutement du Real Madrid dès cet hiver.
Alors l'Atlético Madrid ne fera pas appel, elle accepte la sanction, elle compte recruter aussi dès cet hiver, si possible avoir Diego Costa. C'est possible aussi, d'obtenir ce joueur, puisqu'il est à Chelsea, il est en panne, il marque pas souvent. Retrouver l'Atlético, ce serait idéal pour lui, surtout que l'Atlético est l'un des grands favoris au titre cette saison. Du côté du Real, faut pas leur parler d'interdiction de recrutement, puisque pour eux, tout est déjà fait, ils ne seront pas interdits et ils gagneront l'appel, donc on verra bien, mais en tout cas c'est...
Un petit billet par-ci, un petit billet par-là, puis c'est bon.
C'est des débuts compliqués pour Zinedine Zidane, qui pourra pas réaliser un mercato comme tous les entraîneurs.
Et Tanan, qui est arrivé officiellement à Saint-Etienne.
Et qui est déjà blessé.
Qui est déjà blessé pour son premier entraînement. C'est là-dessus qu'on va se quitter. On vous remercie de nous avoir suivis dans l'émission Parlons Foot 97.9 FM sur fréquence CIE. À la semaine prochaine. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.